Bonjour, je m'appelle Gabriel Perrin-Simon, j'ai 10 ans. Ma mère est enseignante, chercheur, et son sujet de recherche en ce moment, c'est les plafonds peints au Moyen-Âge. Pendant le confinement à cause du Covid-19, nous avons décidé de faire une interview ensemble pour faire mieux connaître son travail. Qu'est-ce qu'un plafond peint ?
C'est une première question difficile. On dit par commodité plafond peint, mais il serait plus exact de parler de charpente peinte. Ce n'est pas un plafond plat et blanc comme aujourd'hui qui serait peint, mais une structure en bois avec des poutres principales et des poutres transversales, appelées solives. Le plus souvent, les éléments peints sont les closoirs, des petites planchettes qui sont placées verticalement entre les solives. On les nomme closoirs du verbe « clore » parce qu'elles ferment les espaces entre les poutres et cachent les raccords. D'autres éléments de la charpoutre peuvent être peints, comme les poutres, mais c'est plus rare.
Qu'est-ce qui était peint sur le plafond ?
On y trouve des blasons en grand nombre, mais aussi des scènes de loisirs nobles, chasse, conversation courtoise, musique, d'innombrables hybrides fantaisistes et colorés. On trouve aussi des inscriptions religieuses ou morales, des fables, des scènes carnavalesques comme des personnages montrant leurs fesses, ou des scènes dites du monde inversé, où l'on voit par exemple un lièvre courser un chien de chasse, ou des humains tirer une charrue fouettée par des bœufs. Certaines scènes peuvent être difficiles à décrypter, ou recevoir une interprétation inattendue aujourd'hui. Au Moyen-Âge, on pouvait par exemple faire peindre un phallus dans sa chambre comme garantie de fertilité. Cette image n'a dans ce contexte rien de vulgaire. On trouve enfin des références à la littérature comme Tristan et Iseut, ou des réécritures de la légende arthurienne.
Ça servait à quoi ? Est-ce qu'ils étaient réservés aux riches ou les pauvres pouvaient-ils aussi en avoir ?
Faire peindre son plafond coûtait cher. Il s'agit d'une grande surface à peindre, ce qui implique un certain temps, des matériaux en quantité, une équipe d'artisans, dont certains très qualifiés pour les détails les plus précis, sans compter les échafaudages, quand le plafond était peint dans une maison déjà construite. Parce qu'il coûte cher, le plafond peint est d'abord un marqueur social. Ce sont les élites qui font peindre leur plafond. Les élites ecclésiastiques et les élites laïques urbaines, comme les princes, les notables et les riches marchands. Ils souhaitent montrer à leurs invités leur richesse et leur réussite sociale. Les blasons qu'ils font peindre au plafond représentent aussi leur famille et leurs alliés. Ils témoignent d'un réseau, d'une influence. Le plafond a aussi pour fonction d'être décoratif. Il rend la pièce plus belle et plus chaleureuse. Selon les images qui sont choisies, le plafond peut raconter des histoires, mais aussi tenir un discours politique, ou social, ou encore religieux. C'est le travail de chercheurs de les déchiffrer. Et ce n'est pas toujours facile, car il faut bien comprendre le contexte historique, et parfois même familial, pour pouvoir proposer des hypothèses d'interprétation. Pour répondre à ta question, seuls les riches pouvaient s'offrir un plafond peint. On pense qu'à la fin du Moyen-Âge, les plus pauvres pouvaient décorer leur maison en accrochant au mur des gravures sur papier, très simples, des images de saints par exemple. Mais il ne nous en reste pas de témoignages.
Est-ce que c'était comme une mode ?
Oui. Même si les plafonds peints existaient dans les églises depuis le XIIIe siècle, ils sont devenus très à la mode dans les maisons et les palais du XIVe siècle jusqu'au tout début du XVIe siècle. On les trouve dans tout l'arc méditerranéen, en Italie, en France, en Espagne, avec même des motifs communs, ce qui prouve une circulation des idées et des artisans, sans doute le long des voies commerciales. Quand on trouve aujourd'hui un plafond dans une ville, il faut chercher autour. Et il n'est pas rare qu'il y ait des plafonds peints dans les maisons voisines, ce qui prouve qu'il y avait une émulation, voire une rivalité entre les propriétaires de maisons et de palais pour avoir la plus belle demeure et étaler sa richesse. Le corpus n'est pas clos. On continue à décorer des plafonds. On en a aussi trouvé en Allemagne, en Écosse, au Portugal, en Suisse. Le décor peint des plafonds ouvre sur l'imaginaire, peut-être plus partagé qu'on ne pourrait le penser, d'une élite européenne, laïque et ecclésiastique.
Pourquoi ne décorer que le plafond ?
En réalité, c'est tout l'intérieur domestique qui était décoré chez les personnes les plus aisées. Il faut imaginer des carreaux en céramique au sol, des fresques au mur, parfois des tapisseries qui avaient le double avantage de décorer la pièce et de l'isoler du froid. On a aussi trouvé des tables peintes, de la vaisselle, des plaques de céramique qui recouvrent les poêles, des coffrets, des miroirs et des peignes en ivoire, de larges coffres en bois. Malgré la disparité de taille, d'usage et de matériaux, tous ces objets portent une iconographie proche de celle des plafonds. Des hybrides, des scènes de chasse, des blasons, des scènes bibliques, etc. Les plafonds ont été mieux conservés, car même quand on rénove une maison et que l'on abat les murs, qu'on change la disposition des pièces, que l'on refait les sols, etc., il est rare que l'on abatte la charpente, sauf à détruire toute la maison. Parfois, on a installé ce qu'on appelle un faux plafond, un plafond moderne qui cache l'ancien et qui a contribué à conserver le plafond médiéval de l'usure du temps, de la lumière et de la fumée de la cheminée. On ne décorait pas que les plafonds, mais c'est parfois le seul élément de décor qui nous est resté.
Ton métier, c'est d'enseigner la littérature. Pourquoi travailles-tu sur les plafonds peints ? Ce n'est pas de la littérature.
Alors, je m'intéresse plus spécifiquement à ce qui, dans les plafonds, touche à la littérature. Il peut s'agir de tout un plafond. Il y a par exemple dans un palais sicilien, un plafond qui a été peint à la fin du XIVe siècle, qui fait environ 230 mètres carrés, et qui compte plus de 50 séquences narratives tirées de la Bible, comme l'histoire de Suzanne et les vieillards, Judith et Holoferne, les jugements de Salomon, l'histoire du roi David, mais aussi tirées de la littérature historique, Jason et les Argonautes, l'histoire de Troie, et de la littérature romanesque comme Tristan et Iseut, la littérature morale comme le lait d'Aristote. Cette ambiance littéraire imprègne les cours des nobles de l'époque et des riches bourgeois. Elle est un signe de raffinement et de culture, et donc d'élection sociale. Je vais te faire écouter quelques mesures du Lamento de Tristano, la complainte de Tristan, une pièce instrumentale anonyme inspirée par la légende de Tristan et Iseut. La littérature est présente dans la musique aussi bien que sur les plafonds et le mobilier. En écoutant ce morceau, il faut penser que l'on voit de nombreux instruments de musique sur les plafonds peints, représentés avec une grande diversité et une grande précision. On voit des luths, des psaltérions, des vielles, des rebecs, des chalumeaux, des cornemuses, des harpes, etc. Ici interprété par le groupe La Note Brève, un groupe qui a pour objectif la redécouverte d'un art musical ancien, dans le respect des recherches les plus récentes et à partir de traités d'époque et sur instruments copies d'anciens. La musique est ici reconstituée à partir d'un manuscrit de pièces italiennes conservées à Londres et jouées sur une flûte, une harpe, une chiffonie et une vielle à roue médiévale. Pour revenir à nos plafonds littéraires, dans la région de Brescia en Italie, on voit peint sur un plafond les noms des héros antiques, très à la mode dans les romans médiévaux comme Médée ou Oreste. Dans la région de Udine, en Italie toujours, on trouve un long cycle iconographique lié à des réécritures de la légende arthurienne. En Allemagne, un plafond comporte plus de 200 images, retraçant l'histoire du monde depuis Adam et Ève jusqu'à Alexandre le Grand, en suivant une chronique historique. Sur d'autres plafonds, le lien à la littérature est moins évident. Sur un plafond italien du XIVe siècle, parmi de nombreux hybrides, on distingue un renard et une cigogne, que l'on peut lier à l'univers ludique et moral des fables d'Ésope. On trouve aussi des écritures sur les plafonds, des proverbes, des jeux de mots, peut-être des extraits de poèmes. Certains textes, comme certaines images, sont encore difficiles à identifier, et mon travail consiste à essayer de les reconnaître et à les interpréter. La fable du renard et de la cigogne, par exemple, est l'une des rares fables que l'on trouve sur les plafonds et dans toute l'Europe. Je cherche quel sens particulier on a pu lui attribuer.
Quelles sont les difficultés que tu rencontres ?
Parce que le support est si particulier, les difficultés sont multiples. Les plafonds sont un décor in situ, ça veut dire qu'il est en place. Il faut donc se rendre dans les maisons ou le palais correspondant, qui est souvent privé, obtenir l'accord des propriétaires pour visiter le plafond et pour faire des photos. Si on ne va pas sur place, il est très difficile de comprendre un plafond, car les images sont dans tous les sens et dans tous les recoins. Une fois là-bas, il reste difficile de discerner les peintures car les plafonds sont hauts et sombres. Il faut parfois un échafaudage et un projecteur pour les voir. En Sicile, pour visiter l'art charpente d'une église du XVe siècle, nous avons dû passer par le toit. Certaines images sont recouvertes de suie ou abîmées par le temps. Certaines inscriptions sont devenues illisibles, soit parce que la peinture s'est écaillée, soit parce qu'un peintre chargé d'en faire la restauration au XIXe siècle a repassé les lettres sans les comprendre et a irrémédiablement brouillé le message. Une fois qu'on arrive à voir ou à lire, il est parfois difficile d'identifier la source. Cela peut renvoyer à un texte perdu, ou qui figure dans un manuscrit qui ne nous est pas encore connu ou qui n'a pas été édité, ou il peut s'agir de la variante locale d'un texte connu sous une autre version ailleurs. Mais il faut dire que la plus grande difficulté, et la première, c'est de repérer les maisons dans lesquelles il peut y avoir des plafonds peints. Parfois, la façade a été refaite au fil des siècles. Il est impossible de deviner qu'il s'agit d'une structure médiévale. Et même quand on le devine, il faut convaincre les gens de nous ouvrir la porte. Et là, on découvre soit un faux plafond, que les gens n'ont pas forcément envie de casser pour nous faire plaisir, soit une charpente noire de suie sous laquelle il est difficile de savoir s'il se cache ou non des images. On développe de nouvelles technologies comme la photo infrarouge, qui permet de discerner le tracé des dessins sous les couches de suie. Mais tous les jours, des quartiers historiques dans les centres-villes sont détruits parce qu'ils sont insalubres ou au bénéfice d'un nouveau plan d'urbanisation, sans que nous ayons l'opportunité de vérifier s'il y avait des plafonds peints. Dans les 10 dernières années, certaines planches peintes ont été récupérées in extremis dans les décombres et les gravats, puis restaurées et exposées dans des musées. Travailler sur les plafonds peints, c'est faire sans cesse un travail de deuil de notre corpus, tout en essayant de tirer le meilleur parti de ce que nous trouvons.
Et tu sais, dans le projet, où d'autres personnes sont-elles investies ?
Heureusement que je ne travaille pas seule. Le travail est immense et repose sur beaucoup de relations humaines. En 2008 a été fondée l'Association internationale de recherche sur les charpentes et les plafonds peints médiévaux, la RCPPM. Elle a été fondée par Monique Bourrin, professeure d'histoire médiévale à la Sorbonne, et elle rassemble des chercheurs historiens, anthropologues, des restaurateurs, toutes celles et ceux qui se sont passionnés pour les plafonds peints et qui souhaitent échanger à leur sujet. La RCPPM a fait un travail extraordinaire pour documenter les plafonds identifiés à l'aide de plans et de photographies, et pour faire un travail de veille sur le terrain en repérant les maisons qui risquaient d'être détruites. Elle travaille en lien avec l'inventaire général du patrimoine culturel et avec les DRAC. Elle monte des argumentaires en vue d'actions de conservation et de restauration. La RCPPM a fédéré les énergies et les initiatives en Europe. Elle entretient des partenariats et des liens d'amitié avec des associations, des musées, des universités, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Allemagne. Elle soutient activement les jeunes chercheurs et chercheuses, qui n'ont pas toujours les financements dont ils ont besoin pour aller voir les plafonds. Enfin, la RCPPM organise des conférences internationales, des journées d'études, et elle a publié 6 ouvrages sur les plafonds peints. Des catalogues régionaux, un panorama européen, une étude sous l'angle de la matérialité, des approches sociologiques et anthropologiques. Grâce à son réseau d'entraide, d'accueil des chercheurs, de partage des photographies, le travail est rendu possible à une échelle européenne.
Pourquoi on n'entend pas parler de ces plafonds à l'école, ni dans les manuels ? Ils ne sont pas connus ?
Pour te répondre, je vais laisser la parole à mes collègues, Monique Bourrin et Pierre-Olivier Dietmar, tous deux historiens médiévistes et membres de la RCPPM, qui vont expliquer pourquoi on a mis du temps à s'y intéresser et dans quel contexte ils ont commencé à susciter l'intérêt des chercheurs.
Les historiens ont mis du temps à s'intéresser aux plafonds parce que les historiens d'art s'intéressent aux chefs-d'œuvre. Et le propre de ces plafonds, c'est que même quand on les regarde de près et qu'on voit le talent du maître qui a peint, et c'est évidemment pas quelque chose d'aussi subtil, c'est précisément parce que ça nous renvoie avec talent au quotidien et pas au chef-d'œuvre artistique. Donc ça a été considéré comme un art mineur et sans intérêt.
Et puis c'est l'influence de l'anthropologie dans les années 90-2000 où on s'intéressait aux images populaires, aux enseignes, aux images de publicitaires, aux images qu'on fait avec nos téléphones portables. De la même façon, on s'intéresse pour le Moyen-Âge aux images qui rentrent pas dans une grande histoire de l'art, aux images qui sont plus ordinaires, les images avec lesquelles on vit, et qui ne sont pas forcément des grandes œuvres d'art, mais qui témoignent de la sensibilité et des émotions propres au Moyen-Âge.
Cette interview, appelée « Les maisons aux images », est extraite d'un documentaire tourné par le CNRS en 2017, que l'on peut retrouver sur YouTube, avec des images magnifiques de plafonds peints et des informations détaillées sur les techniques de peinture et de restauration. Et toi, Gabriel, tu m'accompagnes parfois dans mes voyages pour visiter les plafonds. Peux-tu me raconter un souvenir d'une de tes expéditions ?
En Italie, on allait voir dans une ville où il neigeait. L'un de tes collègues nous a emmenés voir une maison du Moyen-Âge, mais il nous a dit qu'on ne pourrait pas rentrer voir le plafond, qu'il faudrait regarder l'extérieur, parce que la propriétaire ne voulait pas encore montrer son plafond aux gens. Mais quand la propriétaire a vu que j'étais là, elle était contente de voir un enfant. Alors elle nous a fait rentrer quand même, et tu as pu voir un plafond que tu n'aurais pas pu voir autrement. Et comme tu n'avais pas le droit de prendre des photos, tu m'as demandé de faire des dessins. Et une autre fois, en France, on a fait une visite guidée pour voir un plafond, Et puis on a laissé partir le groupe et on est resté tout seul dans la salle au plafond peint. Et on s'est allongé par terre pour regarder le plafond. Le guide avait dit que le propriétaire était un alchimiste, mais toi tu n'étais pas convaincu, alors on est resté des heures allongés par terre à chercher dans quel sens lire le plafond et à trouver des symboles. Des singes sur un ours enchaîné, des éléphants, un âne qui déchiffre une partition musicale, une maman sanglier qui joue de la cornemuse à ses petits, même une dame qui fait pipi dans un chapeau. On s'est aussi entraîné à lire des textes en écriture gothique et tu as dit que j'avais eu de bonnes idées.
Merci à Radio Campus de nous avoir proposé de faire de brefs reportages sur nos recherches et merci à toi Gabriel d'avoir proposé de le faire avec moi sous la forme d'une interview.
Merci à toi maman, j'espère que tu continueras à m'emmener en Italie pour voir des plafonds et manger des pizzas bien sûr.